Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Pauline Bureau. Bonjour Pauline Bureau.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Pauline Bureau, vous êtes dramaturge, metteur en scène, metteuse en scène ?
Metteuse.
Ouais, je m'en doutais. Oui. Donc vous êtes metteuse en scène et en ce moment vous signez votre premier spectacle pour la Comédie Française au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Un spectacle qui s'appelle Hors la loi, c'est ça ?
Oui.
Et qui revient sur le procès historique de Bobigny qui a eu lieu en 1972.
Tout à fait.
Voilà. Pauline Bureau, je suis ravie de vous recevoir. Vous avez choisi comme journée particulière un jour du mois de mars 1991. Vous ne savez plus lequel exactement.
J'ai pas la date exacte.
Non. Mais ce jour-là, vous êtes allée au théâtre pour la première fois et dans la voiture qui vous conduisait à la cartoucherie de Vincennes, vous écoutiez ça.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement.
Pauline Bureau, c'était la bande originale de cette journée-là.
Oui, absolument. C'est ma mère qui écoutait ça. On était dans la voiture et je me souviens qu'il y avait une cassette de Bibi qui tournait en boucle et qu'on allait à la cartoucherie voir un spectacle d'Ariane Nouchkine. Moi, j'habitais pas du tout à Paris, on habitait en Picardie à 1h30, 2h de là. Et voilà, et donc un jour, elle m'a emmenée au théâtre et c'était pour voir Les Atrides. J'avais 12 ans.
Ouais.
Et ça a été un sacré choc. Ça ressemblait à rien que je connaissais. Et c'était fou, tout l'univers, l'ambiance, la cartoucherie, Ariane Nouchkine, les caravanes devant, la nourriture, les acteurs qui faisaient à manger, les loges où on les voyait se préparer. C'était fou. Aussi fou que la décision de ma mère un jour de me dire « tiens, je vais t'emmener là ».
Parce que votre mère, c'était la première fois que votre mère vous emmenait quelque part et encore plus au théâtre. Enfin, c'était...
Non, enfin, c'est-à-dire que nous, on habitait à la campagne, on était trois, j'ai un frère, une sœur, on est très proches en âge. On était tout le temps tous les trois. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'effectivement dans cette journée, ce qui était assez fou aussi, c'était de faire quelque chose toute seule avec ma mère. C'était très promotionnant, je ne sais pas comment dire autrement.
Ouais.
J'étais l'aînée et j'allais là. Alors je ne sais pas si c'est parce que les autres n'avaient pas voulu venir ou si c'était parce qu'elle avait proposé qu'à moi. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que j'allais là avec elle et que tout ça avait été organisé par une amie de ma mère qui s'appelle Jackie et qui était, je l'ai compris bien plus tard, au MLF, ce qui était extrêmement éloigné de mon monde, extrêmement éloigné de ce que je pouvais penser de ma mère, quoique finalement, en fait, on voit peut-être jamais sa mère exactement comme elle est. Et puis que du coup, voilà, effectivement, on se retrouvait là. Moi, j'avais jamais été au théâtre. Mes parents étaient éloignés du milieu de la culture. Ma mère, quand même, avait la conscience de ce qui est beau. Donc, elle pouvait, à un moment, nous faire écouter une musique en disant, ah, écoutez, ça, c'est beau, ou nous lire un texte. Mais là, quand même, aller voir ce spectacle-là dans cet endroit-là, c'est quelque chose qui m'a tout à fait étonnée.
C'est pour la femme d'Agamemnon. Je l'avertis clairement qu'elle se lève, elle aussi, comme un astre, accueillant la lumière. Et que pour le palais, elle fasse monter très haut un long cri d'accueil et de jubilation. Puisqu'avec éclat, la torche nous l'annonce. La ville de Troie est prise.
C'est vrai que les tragédies, c'est quand même souvent aussi le massacre des femmes par les hommes, pour des raisons, ma foi, diverses. C'est ce qui nous a éclaté à la figure, à nous, en tout cas, dès qu'on a commencé à travailler.
Mais
avec une violence que nous n'attendions pas, même à la lecture c'est visible déjà, mais quand ça se joue, quand ça s'incarne, quand des comédiennes incarnent vraiment Iphigénie et Clytemnestre, il y a le sort des femmes qui est crûment et violemment et mortellement comme ça, inscrit et montré.
Pauline Bureau, c'était un extrait des Atrides, donc le spectacle que vous voyez ce fameux mois de mars 1991 et l'extrait d'une interview de Ariane Mouchkine. Ouais. Et dans cette expérience des Atrides, ce qui vous a autant plu, c'est le spectacle, ces personnages, les costumes, ces visages blancs, le maquillage, la musique. C'est du grand spectacle, j'ai
alors,
envie
ouais,
de dire.
C'était tout. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps le spectacle qui était extrêmement marquant parce qu'il était très visuel, parce qu'aussi les acteurs, et ça je m'en souviens, arrivaient sur des chariots au milieu du public qu'on était quand même pris à l'intérieur de la tragédie avec cette musique de Jean-Jacques Lemaître qui était ultra présente et qui soulevait le cœur vraiment. Et puis il y avait aussi tout le reste. Ariane Mouchkine qui était là, les acteurs qui faisaient à manger pendant les pauses. Et puis on mangeait des choses que j'avais jamais mangées encore parce que c'était des pâtés, des choses. Enfin voilà, tout était incroyable. Et aussi des magnums parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé un magnum.
Une glace, vous voulez dire?
Et ça, je m'en souviens. Je veux dire, j'avais jamais vu ça, un énorme magnum comme ça. Donc c'était
à la vanille ou au chocolat?
À la vanille. C'était tout ce qu'il y a de meilleur, quoi. Je me disais, waouh. Et puis il y avait les caravanes devant. Je me disais, ils vivent tout cela. Qu'est-ce que ça doit être cette vie géniale à vivre, à faire des spectacles. Et quand on passait sur les côtés comme ça pour aller dans la salle, on les voyait se maquiller. Les loges étaient ouvertes. Et ça aussi, c'était très marquant parce qu'on voyait le spectacle, mais on voyait aussi le spectacle en train de se faire. Et il y avait quelque chose là-dedans qui était absolument formidable, quoi.
Mais ce que je retiens, c'est que cette journée particulière, ce n'est pas seulement la découverte du théâtre pour vous, mais c'est aussi la découverte du goût du magnum. Et ça, ça me semble aussi important dans votre journée particulière.
J'ai gardé l'amour des deux, hein, donc
du magnum et du théâtre.
Et du théâtre.
Est-ce que vous savez qu'en 1991, le groupe Queen sortait le dernier album du vivant de Freddie Mercury? Et vous, Pauline Bureau, je suis sûre que vous écoutiez ça.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Bush, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Pauline Bureau, ça vous fait plaisir d'écouter Queen ?
Oui, ça me fait plaisir.
Vous l'écoutiez quand vous aviez 12-13 ans, en 1991 ?
Ouais, je l'écoutais.
Alors 91, il est mort quelques temps, il meurt en 91, Freddie Mercury, tout de suite après avoir révélé sa maladie.
Ouais.
Le fait qu'il soit malade du sida, et les années 90, c'est les années noires du sida. C'est l'année du scandale du sang contaminé, 91.
Ouais.
Vous vous souvenez de tout ça ? C'était présent dans votre tête ?
Oui, je m'en souviens très bien. Moi, je suis arrivée à Paris milieu des années 90.
Ouais.
J'ai beaucoup de souvenirs de ça. J'étais au lycée en plein milieu des années 90. Je me souviens de l'arrivée de la maladie. Je me souviens des premières trithérapies. Je me souviens du militantisme. Il se trouve que le garçon avec qui je vivais à l'époque, mon colocataire, était séropositif, a fait partie des premières personnes qui ont eu la chance d'avoir accès aux trithérapies. J'en ai un souvenir extrêmement présent, extrêmement violent. Et je pense que c'est quelque chose qui a énormément compté, et dans ma construction, et dans la femme que je suis, et dans le militantisme. Et voilà. Donc oui, je m'en souviens, et c'est vrai qu'à chaque fois que... Queen, c'est magnifique, quoi. C'est tellement du spectacle, c'est tellement fort et incandescent. Ça me fait plaisir de l'entendre.
Une journée particulière sur France Inter jusqu'à 15h avec la dramaturge et metteuse en scène Pauline Bureau en mars 91. Donc Pauline Bureau, vous allez pour la première fois de votre vie au théâtre pour voir Les Atrides d'Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Et c'est ce spectacle qui vous a donné envie de prendre des cours de comédie. Faire du théâtre, c'était comme un rêve pour vous, Pauline Bureau.
Ouais.
Un rêve fou un peu, non ?
Ouais, c'était un rêve. Et puis c'est vrai que... Enfin... Je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai pensé que ce serait bien pour moi de faire ça. Et du jour où j'ai commencé à faire ça, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont simplifiées dans ma vie. C'est-à-dire que je trouvais un endroit où tout ce qui pouvait m'angoisser pouvait être dit. Et du coup, la vie était plus facile. C'est encore le cas.
Et votre rêve de faire du théâtre, d'une certaine façon, était presque trop étroit. Vous avez fait plus encore que vos rêves de jeune fille.
Oui, c'est-à-dire que... en tout cas, je suis arrivée à l'endroit où je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que je pensais jouer, je pensais être actrice. C'était pour moi le seul endroit où j'imaginais avoir une place. Et en même temps, quand j'y repense, je me dis, tiens, en allant voir Mnouchkine ce jour-là aussi, ma mère m'ouvrait une fenêtre sur une façon d'être une femme complètement différente qu'Ariane Mnouchkine, quoi. Mmh. Donc c'est marrant que le premier spectacle que j'ai vu, quand même, ce soit un spectacle mis en scène par une femme, et puis effectivement avec ses héroïnes, parce que j'ai quand même beaucoup de souvenirs de femmes, d'Iphigénie, de Clytemnestre, etc., dans les spectacles. Mais moi, je pensais pas du tout que ça c'était pour moi. Moi, ce que je me disais, mon fantasme absolu quand j'étais au conservatoire, c'était de me dire, à l'époque, Actes Sud publiait les livres et puis il y avait la distribution des acteurs qui avaient créé le spectacle. Et je me disais, oh là là, peut-être un jour, un auteur, parce que dans ma tête, bien sûr, c'était un auteur, émetteur en scène, me fera jouer et j'aurai mon nom et je serai une des actrices qui aura créé un de ces textes. Et c'est vrai que le fait de moi écrire un texte et un jour sur un livre Actes Sud, de voir mon nom en couverture et de me dire que ça avait été écrit par moi, alors ça a été quand même extrêmement émouvant, extrêmement fort, extrêmement angoissant aussi, bien sûr, comme tout ce qui fait très plaisir. Mais oui, je pense qu'effectivement, on dit « Ah bah, faut réaliser ses rêves ». Mais parfois, on a des rêves qui sont assez petits, on se met soi-même dans des boîtes et puis je trouve que c'est assez beau aussi de réinventer ses rêves et de se dire « Tiens, j'ai rêvé de ça, mais maintenant... J'en rêvais à 10 ans, est-ce que j'en rêve toujours à 40, quoi ? Souvent, ça évolue et on peut rêver autrement, on peut rêver plus grand, on peut rêver différemment. On peut aussi être pas du tout comme on s'imaginait être quand on était enfant et même pas du tout comme on s'imaginait être hier. Et puis on se dit, bah tiens, hier, je croyais que j'étais comme ça. Et bah aujourd'hui, non, je suis comme si. Mais il faut aussi se laisser aller et suivre qui on est.
Ouais, ce qui me fait, moi j'aime beaucoup l'idée des rêves trop petits pour soi, que nos rêves, les rêves que nous imaginons sont trop petits et qu'il faut rêver en plus grand. Et vous n'auriez jamais imaginé évidemment être programmée à la Comédie Française, j'imagine, Pauline Bureau. Vous n'avez certainement pas non plus imaginé que vous recevriez le Molière du Jeune Spectacle pour Dormir 100 ans, un spectacle pour enfants. Mais de toutes vos pièces, il y en a une qui pour vous est fondatrice, un texte que vous avez écrit collectivement, c'est votre pièce modèle, c'est le titre de cette pièce, et qui parle à nouveau, j'allais dire, et déjà des femmes, parce que c'est Mouchkine, les femmes, la tragédie, être une femme, c'est ça que vous interrogez.
Quand j'étais petite, je voulais vivre l'aventure. Je grimpais dans les arbres, je me salissais, j'étais agitée, je parlais à tout le monde. Je voulais pas être une petite fille modèle. Je voulais être un modèle d'aventurière. Alors, Tarzan, c'était mon top. Je faisais son cri toute la journée. Bon, voilà. Éventuellement, je faisais Cheetah. Mais jamais Jane. Toujours Tarzan.
Moi, je me bourrais de pain au chocolat devant Heidi et la petite maison dans la prairie. J'avais peur d'Ixor. Et je voulais être la femme d'Albator.
Je suis Albator. Je suis Robin des Bois. Guillaume Tell. James West. Artemus Gordon. Olive et Tom. Je ne suis pas la princesse. Je la sauve. Je ne suis pas la fille. Je suis celui qui ose enfin lui prendre la main.
Pauline Bureau, c'était un extrait de votre pièce modèle avec des actrices, des comédiennes formidables.
Ouais, Laure Calamy, Sonia Fouard, Marie-Nicole, qu'on vient d'entendre.
Et qui ont participé à l'écriture de ce texte.
Ouais.
Parce que vous vous êtes rendu compte que des textes qui parleraient des femmes comme vous aviez envie d'en parler, ça n'existait pas. Donc vous y êtes mise, c'est ça? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, alors donc j'ai commencé à mettre en scène et puis je me posais pas du tout la question du genre, en fait. C'est une question qui est venue assez tard. Et puis, voilà, j'ai mis en scène des textes classiques sans m'apercevoir à quel point ils écrasaient les femmes et sans m'apercevoir à quel point je reproduisais des modèles tout à fait masculins et complètement genrés et normés. Et puis est venue une commande d'une dame qui s'appelle Violette Belcadi, qui était à l'époque au Centre Dramatique National de Montreuil, qui m'a dit, est-ce que vous voulez faire ce serait bien de faire un spectacle, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Alors, moi déjà, c'était la première fois qu'en fait on me commandait quelque chose, donc je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas, étrange, mais allons-y. Et puis ça devait jouer 5 dates, et puis on a commencé à travailler avec les actrices. Et puis, au départ, c'était des montages, genre voilà, Simone de Beauvoir, et puis on essayait comme ça de travailler, et puis Virginie Despentes, et puis en travaillant, ça nous a fait parler, et puis on a commencé à parler de nous, on a commencé à raconter nos avortements, nos blessures, on était 10 autour de la table, si on compte la scénographe, la costumière, avec les actrices. Et puis, quand on se racontait, on se disait, mais tiens, il y a des chiffres, et puis ça se vérifie autour de cette table. Alors voilà, une femme sur 3 avorte, et ben autour de la table, il y en avait 3 qui pouvaient raconter un avortement, qui s'était d'ailleurs plus ou moins bien passé. 20% des femmes se font agresser sexuellement, il y en avait 2 qui pouvaient raconter des viols. Et puis, en parlant de nous comme ça, on s'est dit, mais en fait, le spectacle, il faut qu'on le fasse sur ça. Attends, là, on a 30 ans ou presque, et on n'avait pas réalisé à quel point ça nous est arrivé parce qu'on était des filles de nous construire différemment de notre frère ou du copain d'à côté.
Donc vous avez interrogé la construction, comment on se construit.
Oui, on s'est raconté.
En tant que femme.
On s'est raconté. Dans le spectacle, on se racontait. Les 5 actrices, Benoît qui est dramaturge et qui est également ma sœur et moi-même, on se racontait. Et en se racontant, on s'est quand même libéré de beaucoup de choses, on a conscientisé beaucoup de choses et c'était notre arrivée au féminisme. On a découvert à 30 ans que le monde n'était pas du tout le même suivant si on était des filles ou des garçons et on a comme ça retraversé un chemin qui semblait être un chemin d'évidence mais finalement qui, pour nous, on nous avait tellement seriné que les filles et les garçons c'était pareil qu'on n'interrogeait pas ce qu'on voyait et qui nous crevait les yeux. C'est-à-dire que les filles et les garçons c'était pas du tout pareil. Et déjà, quand on avait 7 ans, c'était pas pareil. À 17 ans, c'était pas pareil. À 27 ans, c'était pas pareil. Ça n'avait jamais été pareil. Mais nous, on nous disait que c'était pareil et on le croyait. On disait, ah bah, c'est pareil. Ah oui, mais attends, pourquoi le garçon à côté de moi gagne 2 fois plus d'argent? C'est bizarre parce que c'est pareil. Et c'est ce chemin-là, en fait, qu'on a fait.
Et c'est ce chemin-là que vous ne lâchez plus. C'est ce chemin-là que vous continuez à apprendre et à...
C'est ce chemin-là qui est impossible à lâcher. C'est-à-dire que quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus les fermer. C'est partout et c'est tout le temps. Et c'est partout et c'est tout le temps des différences qui sont cruciales. Après, c'est pas seulement les femmes. Je pense que Nasser Djemaï, c'est un auteur que j'aime beaucoup, un mot, il dit les personnes infériorisées. Je trouve que quand on a compris ça. On le voit pour soi, on le voit pour les autres. On voit à quel point, en fait, il y a des clivages de domination qui sont énormes dans nos sociétés. Et on peut plus fermer les yeux. On le voit tout le temps, partout. Et moi, ce que je fais comme théâtre et les histoires que je raconte, c'est tout simplement des histoires que je n'ai jamais vues sur les plateaux et que j'ai besoin de voir, que j'ai besoin d'entendre et qui me sont importantes.
Alors, il y a une femme qui est importante, enfin plusieurs femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont quand même écrit sur la condition féminine.
Bien sûr, énormément.
Il y a des femmes qui vous accompagnent.
Énormément.
Il y en a une qui a une place essentielle, c'est elle.
Virginie Despentes, est-ce que vous êtes une féministe révolutionnaire ?
Je suis une féministe, en tout cas, forcément c'est révolutionnaire, quand même. Et je le suis... C'est vraiment une affaire qui m'intéresse, cette histoire de féminisme. Donc, et forcément, c'est révolutionnaire, parce qu'on n'en est tellement pas encore sorti de cette affaire. Donc, ouais. Puis je crois quand même... Là, je suis une féministe assez confiante aussi. Je trouve que les femmes ont... Là, en préparant le livre, à chaque fois qu'on se penche sur cette histoire de féminisme et l'histoire des femmes, on est quand même surprise par à quel point on a spécialement enduré, quoi. Je vois beaucoup de catégories de gens qui se plaignent, beaucoup du traitement historique qui leur a été infligé à juste titre, vraiment que d'horreur. Mais putain, les femmes, on a ça en commun quand même partout. On a bien dégusté, quoi. Et je nous trouve quand même vachement en forme après tout ça, quoi. Donc je me dis quand même quel sexe puissant et intéressant, quoi. Et quelle endurance, quoi. Quelle endurance, quelle finesse, quelle intelligence, quel humour, et quel pimpance. Il y a un côté comme ça, quel pimpance, parce qu'on se plaint peu par rapport à ce qu'on endurait, je trouve. Non seulement je suis féministe et c'est révolutionnaire, mais en plus je suis féministe très intéressée par ce qui va se passer. Je serais peut-être cruellement déçue, mais peut-être pas. Parce que quand même, on en a dans le ventre, on peut pas nous le retirer, quoi.
C'est une archivina de 2007, Pauline Bureau, une interview de Virginie Despentes dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture. Quel pimpance on en a dans le ventre. Moi, ça me plaît beaucoup.
Ouais.
Vous ?
Ouais, bah moi aussi, ça me plaît beaucoup. Tout ce qui est... Oui, c'est vrai.
Féministe révolutionnaire, vous l'êtes ?
Bah, non, mais sa réponse est tellement géniale, quoi. C'est vrai que je suis féministe et c'est forcément révolutionnaire. C'est une réponse magnifique.
Thank you.
Pauline Bureau, vous avez reconnu ce qu'on écoute ?
Massive Attack.
Ben oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai pensé que c'était Massive Attack. Au début, je me suis dit c'est Massive Attack, et puis après, j'ai des problèmes de reconnaissance de son.
D'accord, ben c'est Massive Attack, c'est leur premier disque qui sort en 1991, ouais. Et c'est le son d'une époque. C'est le son
d'une époque. Moi, surtout, c'est le son d'un deuxième choc théâtral que je vais pouvoir vous raconter. Parce qu'au début, je me suis dit, incroyable, elle a mis ça, c'est ça, puis après, je me suis dit non, et en fait, si. Et ben si, parce que moi, j'ai le souvenir de... Coma dans le spectacle de Chéreau qui était La solitude des champs de coton. Et alors là, ça c'est mon deuxième truc parce que pour mes 18 ans, un copain de lycée, enfin qui était déjà à la fac, donc c'était quand même un copain assez classe parce qu'au lycée on aime bien avoir des copains à la fac, m'offre des places pour aller à la manufacture des œillets voir dans La solitude des champs de coton. Bon, j'y vais. Sur le moment, ça m'embête un peu. C'est assez loin, etc. Et puis, on arrive là-bas. Et déjà, j'ai un grand souvenir. C'est en bifrontal. Et en face de moi, sur les gradins, il y a Daniel Émile Forque. Daniel Émile Forque, c'est la Cité des Enfants Perdus. Et je me dis, putain, il y a le savant de la Cité des Enfants Perdus qui est dans la même salle que moi. Non, mais c'est idiot. Alors que je vais voir un spectacle magnifique de Chéreau. Mais enfin, je ne connais ni Chéreau ni Pascal Grégory. Je reconnais Émile Forque. Et là, le spectacle commence. Au début, faut dire la vérité, je m'ennuie beaucoup. Et puis, à un moment, il y a cette musique de Massive Attack et il y a Chéreau et Pascal Grégory qui commencent à danser, qui parcourent le plateau avec les poursuites comme ça et cette musique qui est avec beaucoup de basse qui prend aux tripes. Et c'est un moment et je finis en larmes sur mon fauteuil sans même comprendre pourquoi je pleure. Il n'y a rien de triste. C'est juste tellement vivant et tellement fort que je suis extrêmement secouée sans même comprendre ce qui s'est passé.
Alors vous voyez, Pauline Bureau, moi c'est pas du tout pour ça que je vous ai fait écouter Massive Attack, c'est parce que c'est leur premier disque, mais sur la pochette de ce premier disque, il n'y a pas écrit Massive Attack, mais seulement Massive. Attack avait disparu sur la pochette du disque, parce qu'on est, c'est la guerre d'Irak, c'est la première guerre du Golfe, et que tout mot rappelant de près ou de loin la guerre était interdit à la BBC.
Ah, c'est drôle.
Et je me disais que c'était une façon de vous parler aussi en 1991, donc cette année que vous avez choisie, de cette guerre du Golfe, Pauline Bureau.
Oui, ça je m'en souviens, effectivement. Je me souviens bien, je me souviens de la guerre du Golfe, je me souviens de quand ça a été déclaré, je me souviens qu'il fallait faire des provisions, qu'on faisait des provisions. Non mais maintenant ça semble fou, on faisait des provisions parce qu'on avait peur de manquer. Et puis je me souviens que moi au grenier de la maison où on habitait, il y avait une petite télé en noir et blanc qui était à côté de là où on dormait et que moi j'avais allumé la télévision très tard la nuit parce qu'on avait peur de la guerre du Golfe, que ça vienne jusqu'à nous comme ça avec mon frère et ma sœur. Pour moi, dans mon imaginaire d'enfant, c'était la guerre quand même.
Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de la metteuse en scène et dramaturge Pauline Bureau, que en mars 91, vous alliez pour la première fois au théâtre pour voir un spectacle d'Ariane Mouchkine. Ce jour-là, vous avez décidé que vous feriez du théâtre et ça a marché. Et même dans vos rêves les plus fous, vous n'auriez jamais imaginé que vous seriez aujourd'hui à la Comédie Française pour votre pièce « Hors la loi ». C'est son titre. Oui. Pièce qui revient donc sur le procès historique de Bobigny qui a eu lieu à l'automne 1972.
Et puis, un autre procès commence ce matin. Son cadre, le tribunal pour enfants de Bobigny. Le nom de l'inculpé, Marie-Claire, sa faute, s'être fait avorter. L'affaire Marie-Claire, c'est une affaire bien banale. Marie-Claire a 17 ans maintenant. Il y a 2 ans, elle rencontre un garçon. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Marie-Claire n'a bien sûr pas de travail. Elle ne peut élever son enfant. Sa mère est veuve et ne touche qu'un salaire bien petit pour entretenir ses 3 enfants. Alors on en parle à quelques amis, on en discute et on trouve la solution. Ce sera l'avortement. Je vous le disais, une affaire bien banale. Pourtant, aujourd'hui, Marie-Claire est devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Elle fera partie vraisemblablement ce soir des 500 ou 600 femmes condamnées annuellement en France pour le même motif, 500 ou 600 condamnations pour 1 million d'avortements par an. C'est peut-être trop peu, mais c'est peut-être aussi trop.
Avortement libre et gratuit, avortement libre et gratuit, avortement libre.
Rentrez.
Pauline Bureau, c'était un extrait du journal de France Inter du 11 octobre 1972. Le journaliste était Patrick Lecoq. Les femmes manifestaient devant le tribunal de Bobigny parce que le procès se déroulait à huis clos.
Ouais.
Et elles voulaient rentrer, participer à ce procès. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, Pauline Bureau? Pourquoi le procès de Bobigny?
J'ai choisi ce sujet-là parce que c'est venu avec la proposition d'Éric Ruff à la Comédie Française de faire un spectacle pour et avec les acteurs de la troupe. Je voulais, dans ce lieu qui est chargé d'histoire, raconter une page de l'histoire des femmes. Parce que ça m'avait frappé qu'il y a très peu de femmes qui ont écrit des textes à la Comédie Française. Et je me suis dit, tiens, à un moment dans le spectacle, Gisèle Halimi, elle dit, bah voilà, si le monde ne te va pas, faut y coller et change-le. Alors je me suis dit, c'est facile de dire, il n'y a pas de femmes qui écrivent des textes. Et puis du coup, on me le propose, il faut que je le fasse. Et puis il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens. Et raconter une page de l'histoire des femmes avait du sens. Alors après, la question a été quelle page? Et assez vite, en fait, l'histoire de Marie-Claire Chevalier s'est imposée. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'étaient intimes et que j'ai l'impression que ce qui fonctionne pour moi quand je fais un spectacle, ça peut être à la fois raconter l'histoire de quelqu'un ou raconter l'histoire de plusieurs personnes, mais m'y retrouver moi-même et pouvoir me projeter dedans. Donc cette histoire était juste complètement folle, puisque donc cette enfant qui est violée,
Marie-Claire
Chevalier, qui a 15 ans, qui est violée, dénoncée par son violeur pour avoir avorté de l'enfant qu'elle a eu suite à ce viol. Enfin, l'histoire était complètement dingue. On se disait aussi, voilà où on en était en France en 72, je veux dire, des policiers français décidaient de libérer le violeur en échange
d'un avortement.
Voilà, l'avortement était quand même... Donc il y avait ça... Et puis, il y avait autre chose. Il y avait le fait que l'avortement et globalement tout ce qui a trait à la grossesse, au sang, aux fausses couches, aux grossesses qui s'arrêtent, me semblait être une des choses dont on parle pas, dont on parle peu, une des choses qui fait honte et comme tout ce qui fait honte, qui fait mal. Et que de mettre ça sur le plateau était pour moi important.
Alors Pauline Bureau, vous avez choisi pour raconter cette histoire, cette page de l'histoire, de partir de celle de justement de cette jeune femme, Marie-Claire Chevalier, et de sa mère. Et vous avez mêlé, croisé leur histoire individuelle et la grande histoire.
Marie-Claire, vous aviez quel âge lorsque vous êtes aperçue que vous étiez enceinte?
J'avais 16 ans.
À qui en avez-vous parlé en premier?
Au garçon d'abord, et puis ensuite à ma mère.
Comment ça s'est passé avec le garçon?
Ben, quand je lui ai dit, il s'en fichait complètement. Et puis, il dirait que ça serait pas lui. Puis, c'était même pas mon fleur ni mon petit ami. Puis vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder, et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui.
Ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter?
Ah oui, je lui en ai parlé et il a pris peur et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé.
Vous en avez parlé à votre mère?
Oui. Et j'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou et puis c'était pas la peine, j'avais pas de situation, je venais de quitter l'école, j'étais pas préparée à avoir un enfant et... Que je voulais pas être dans la même condition que maman l'a été quand on nous a élevés toutes les trois. Alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter.
Et votre mère a compris?
Voilà.
Elle vous a aidé?
Ma mère m'a aidé comme elle a pu. Bien sûr, dans ces moyens, on avait que ces moyens-là. Si on avait eu d'autres moyens, on aurait fait d'autres moyens. J'aurais été à l'étranger. Mais on avait que ces moyens-là.
C'est la voix de Marie-Claire Chevalier qu'on vient d'entendre dans une interview de 1972. Pauline Bureau, vous l'avez rencontrée, vous l'avez recherchée.
Oui, je l'ai recherchée, parce que j'avais besoin d'avoir sa parole, et que ce soit sa parole qui lance l'écriture.
Elle a la même voix, parce que cette voix est très particulière. Est-ce que Marie-Claire Chevalier d'aujourd'hui, c'est une femme de 60 ans, 65 ans?
Oui, c'est ça.
Elle a la même voix?
Oui, je trouve qu'elle a la même voix, en tout cas je reconnais très bien sa voix. C'est vrai que je l'ai recherchée, j'ai trouvé dans des archives du 93 la région dans laquelle elle habitait. J'ai appelé peut-être 30 personnes qui s'appelaient Chevalier dans cette région et j'ai fini par retrouver sa mère. Et sa mère m'a donné son numéro. Et là, je l'ai rencontrée et on a parlé longtemps. J'ai 100 pages d'interview avec elle et je suis partie de cette interview-là pour écrire.
Et elle vous a raconté à nouveau cette histoire?
Oui. enfin, c'était important pour moi qu'elle la raconte parce que finalement, elle l'avait jamais vraiment racontée en long, enfin, en la dépliant. Je sais pas comment dire. On peut le dire en 5 phrases, mais on peut le dire aussi en 100 pages, quoi. Et j'avais besoin qu'elle déplie ce que ça avait été pour elle que ça et ce que c'était encore aujourd'hui, en fait. Parce que ce qui m'a interpellée, c'est de la voir à la gare, parce qu'on s'est retrouvés dans une gare à 65 ans avec sa doudoune et de me dire, c'est cette vraie personne qui n'est pas très âgée, à qui c'est arrivé, dans un pays qui est le mien, et c'était hier. Donc, pour que le public ait cette même sensation que moi, ça m'a semblé important de partir de Marie-Claire à 65 ans. Et de dire, voilà, moi, je suis cette femme-là, et j'ai vécu ça quand j'avais 15 ans. Et de voir aussi qu'est-ce que c'est que la mémoire, comment est-ce que ça travaille, comment est-ce qu'on se souvient aujourd'hui de la jeune fille qu'on était hier, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, comment on fonctionne aussi avec nos blancs, avec nos manques, avec ce qu'on oublie, et que finalement c'est aussi dans ce qu'on oublie, dans ce qu'on veut pas voir, dans ce qu'on a enfoui que se loge notre identité. Le spectacle, pour moi, raconte ça aussi.
Et c'est plutôt très réussi, Pauline Bureau. Est-ce qu'elle a honte encore? Est-ce qu'elle a honte? Est-ce que la honte est encore présente aujourd'hui dans les paroles de Marie-Claire Chevalier?
Je crois que le dernier texte du spectacle dit que ce qui lui a fait le plus honte dans sa vie est ce qui la rend la plus fière aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai. Et je pense ça que c'est très vrai de façon générale. C'est-à-dire que moi, je fais du théâtre à partir de ce qui me fait honte. Et j'ai remarqué que ce qui me fait honte, en fait honte à d'autres. Et que la honte n'est pas une construction personnelle, mais c'est une construction de la société. Et qu'en tant que femme, on porte un certain nombre de hontes. Et l'avortement en fait partie, l'agression sexuelle en fait partie, et que tout ce qui me fait honte une fois raconté, une fois mis sur le plateau, devient une force parce que c'est avec ça que je fais des histoires et c'est avec ça que je touche le public. Et que du coup, je pense que travailler sur la honte, c'est très important.
Alors votre spectacle tire le fil entre cette femme, cette jeune femme de 16 ans qui est contrainte à avorter et puis la femme d'aujourd'hui. Alors il y a des scènes qui se passent dans l'appartement de Marie-Claire Chevalier, de sa mère et de sa sœur. Tout est bleu.
Ouais.
Où on entend cette petite fille pleurer en disant pardon maman quand elle comprend qu'elle est enceinte. C'est absolument bouleversant. Puis il y a toute une autre partie du spectacle où vous avez reconstitué à partir des minutes du procès le tribunal de Bobigny avec une actrice extraordinaire. Elles sont toutes extraordinaires. Hein. Mais celle qui joue Gisèle Halimi, écoutez, franchement, elle est absolument formidable. On l'écoute.
Un être humain qui n'est pas propriétaire de son corps, c'est un esclave. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous. Et regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi? De sonde, de ventre, d'utérus, de grossesse et d'avortement? Mais est-ce que l'injustice fondamentale et intolérable n'est déjà pas là? Ces 4 femmes... devant ces 4 hommes. Mais est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, d'être jugés par des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? C'est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous ne soyons que des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire.
Pauline Bureau, j'aimerais pas faire des jaloux dans la troupe de la Comédie Française. Les comédiens sont extraordinaires dans votre spectacle. Et c'est très fort de réécouter ces plaidoires, la plaidoirie de Gisèle Halimi et d'écouter tous les témoins qui viennent à la barre pour défendre ces femmes qui avortent. Et vous avez travaillé vraiment au mot à mot, vous avez repris les textes.
J'ai travaillé à partir des minutes du procès. Il y a des choses qui sont au mot à mot et il y a des choses que j'ai réinventées, dont je me suis éloignée parfois. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans le spectacle qui ont été dites.
Alors, il y a Michel Rocard qui vient, qui parle et il est assez formidable lui aussi.
Je veux vous dire ici que pour un cas qui vient devant les tribunaux, il y a à peu près 300 procès par an. Le nombre d'avortements clandestins clandestins est estimé en France entre 500 000 à 1 million par an. La plupart des femmes avortent dans des conditions effroyables. Les conséquences sont dramatiques, puisqu'on estime à 5 000 le nombre de femmes qui meurent chaque année suite à un avortement clandestin. 5 000 femmes chaque année. La loi existe depuis 1920. Et si on fait un rapide calcul, on arrive à 250 000 femmes. 250 000 mortes qui devraient nous hanter la nuit. Tous, tant que nous sommes.
Pauline Bureau, d'une certaine manière, vous rendez hommage à ces 250 000 femmes qui sont mortes des suites des avortements clandestins. Vous rendez hommage à ces héroïnes, à Marie-Claire Chevalier, à sa mère, à la faiseuse d'ange, à la voisine qui a trouvé la faiseuse d'ange, à toutes ces femmes qui ont osé, au risque de leur vie, témoigner en disant « si c'était à refaire, je le referais ». C'est ça qui se passe dans ce procès.
Tout à fait. Elles choisissent d'accepter de faire un procès de rupture, un procès politique, et de risquer des peines lourdes pour faire avancer la loi.
Et ça marchera.
Et ça marche. Et ça marche. Alors déjà, moi, je trouve que c'est réjouissant, parce qu'on se dit au bout d'un moment, bah si, les choses marchent, en fait. Au bout d'un moment, si on se met à plusieurs et qu'on peut soulever des montagnes, à l'époque, c'est quand même une montagne.
Parce qu'après le procès de Bobigny, enfin, le procès de Bobigny a participé à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
Il y a une telle médiatisation et voilà, que Simone Veil vraiment va prolonger ça avec la loi et que ce procès est extrêmement important. Alors, c'est marrant parce que c'est extrêmement important et en même temps, aujourd'hui, on n'en parle pas tant que ça et à certains moments, ça a peut-être été un peu oublié. Moi, je crois que tout ce qui fait un peu honte, comme là, par exemple, cette gamine de 16 ans arrêtée à 6h du matin avec les menottes dans le dos pour avoir avorté, on l'oublie aisément. On va garder ce qui fait plaisir dans l'histoire d'un pays.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Pauline Bureau, on en a déjà un petit peu parlé. Le 17 janvier 1991, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et 27 autres pays, c'est-à-dire une coalition de près de 780 000 hommes, déclenchent l'offensive aérienne alliée contre l'Irak. C'est le début de la guerre du Golfe. Le 29 janvier, Jean-Pierre Chevènement, ministre français de la Défense, donne sa démission. En 1991, c'est aussi l'état de siège qui est décrété en Algérie après des manifestations islamistes. Et c'est le début de la, ça sera le début de la décennie noire. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg meurt. Et le 4 mars, son interview posthume paraît dans le journal Libération.
Ouais. Je m'en souviens.
Ça vous avait marqué?
Ouais. Je me souviens que son interview posthume, il était dans le ventre de son chien.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je m'en souviens. ça m'avait semblé complètement incroyable.
Mais ça l'est, toute l'interview est assez incroyable.
Folle. Ah, ouais,
complètement folle. En juin 1991, Berlin redevient la capitale de l'Allemagne. Et en décembre, l'URSS s'effondre. C'est la fin d'un monde.
Ouais.
C'est la fin de la guerre froide. Alors, plus léger, en 1991, les tubes en France, il y avait... Déjeuner en paix, de Stéphane Escher. Il y avait...
Je la connais encore par cœur, donc c'est vrai que c'était un tube.
Auteuil Neuilly Passy, des Inconnus. Oui. Vous la connaissez aussi par cœur.
Moins.
Et alors celle-là, est-ce que vous la connaissez par cœur?
Bien sûr. Bruel.
Ouais.
10 ans, bien sûr.
Même jour, même heure, même pas.
Ouais.
Allez-y, on vous écoute. Hein.
Ah non, c'est bon là.
Vous chantez pas.
Mais c'est vrai que je m'en souviens, ouais.
Place des grands hommes.
Place des grands hommes, ouais.
Le jour est venu et moi.
Ah oui, je m'en souviens très bien.
Vous le trouviez beau?
Oui, enfin, j'avais vraiment une copine qui avait l'intégralité de sa chambre recouverte de tous les posters de Patrick Bruel. Alors elle,
comme la réalisatrice de l'émission.
Ah bah voilà. Et alors c'est-à-dire qu'elle l'aimait tellement que moi je ne pouvais pas l'aimer. Ça aurait été vraiment pas cool pour elle. Je ne sais pas comment
c'était
dire.
Exclusif.
C'était exclusif. C'était son truc à elle. Donc.
Alors, Pauline Bureau, en 1991, on va oublier Patrick Bruel. Enfin, on le garde dans un petit coin de notre tête.
Ouais.
Le film de Kevin Costner, Danse avec les loups, reçoit l'Oscar du meilleur film.
L'automne est arrivé et je passe plus de temps que jamais avec mes amis. Ils m'ont donné un tipi où je me sens à mon aise. Nous parlons tous les jours, mais je sais qu'Oiseau bondissant n'est pas content de moi. Il ne cesse de demander combien de blancs vont arriver ici. Je lui dis que les blancs traverseront probablement la région, rien de plus. Je ne profère que des demi-vérités. Un jour, il en viendra trop, et je ne parviens pas à le lui dire. Je suis certain que dressé avec le poing se rend compte de ma réticence, mais elle n'en dit rien, ce qui est tout à son honneur.
Alors, Pauline Bureau, Kevin Costner.
Ah ouais.
Alors,
ça, c'était vraiment quelque chose. Je trouvais vraiment tellement beau, quoi. J'ai un souvenir d'avoir appris l'expression viril. J'ai une copine qui avait un poster et qui m'a dit oh, « T'as vu sur ce poster-là, il est vraiment très viril. »
Et donc, vous avez été chercher
dans le dictionnaire. J'ai dit oui, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. J'ai dit « Oh oui, très viril. » Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Ça avait l'air super d'être viril. Et voilà, j'ai appris cette expression-là avec Kevin Costner.
Pauline Bureau, sur quoi vous êtes en train d'écrire en ce moment ?
En ce moment, je suis en train d'écrire Féminine. C'est une comédie et ça raconte les débuts du foot féminin dans notre pays.
Et c'est quoi les débuts du foot féminin dans notre pays? C'est quand?
C'est fin des années 60 et c'est l'équipe de Reims. Et c'est une équipe qui se fédère sur une blague.
Ouais, laquelle?
Et la blague, bah, c'est dans une kermesse en 67. Ils font venir un match de catch entre Lilliputiens. En 68, les organisateurs veulent faire mieux. C'est pas facile et ils organisent un match de foot féminin pour que tout le monde s'amuse. Voilà. Et donc, ils passent une petite annonce, ils trouvent des femmes qui sont OK pour jouer au foot. Sauf que ces femmes, eh ben, elles vont jouer bien et puis elles vont avoir envie de continuer. Et donc, de cette blague, ça va devenir l'aventure de leur vie. Elles vont devenir l'équipe de France. Et en 78, elles vont gagner la Coupe du Monde.
On les écoute.
Une bouffée de fraîcheur. Lorsqu'on parle de football féminin, l'expression peut évidemment prêter à sourire. Mais écoutez plutôt les réflexions de quelques jeunes filles qui ont choisi le football comme passion numéro un. et vous verrez qu'effectivement, c'est beau le sport lorsqu'il est conçu comme cela.
Du tout début, qu'on commence à marcher, qu'on commence à s'amuser, on part avec les garçons et puis on a un ballon au pied, on grandit avec.
Et c'est rien que la fréquentation des garçons qui vous fait aimer le football.
Ah oui, parce que les filles, elles sont toujours entassées dans leurs poupées, dans leurs dinettes, et ça m'intéressait pas. Au contraire, j'ai jamais eu de poupée de ma vie. Alors, j'ai toujours eu des jouets de garçons, mais je sens que j'ai le football dans la peau. Et ça, il y en a, c'est autre chose. C'est la natation, il y en a d'autres, c'est le basket. Pourquoi pas le football, après tout?
Vous êtes un garçon manqué, non?
Un garçon manqué. Enfin, j'étais, mais j'ai quand même quelque chose de féminin, j'espère.
Quand vous arrivez sur un terrain, qu'est-ce qui se passe là? Quand il y a du monde?
Alors là, c'est... Ça dépend de l'enjeu du match, mais en général, ça prend au trip quand même.
Je suppose qu'on se moque de toutes les jeunes filles qui sont là, quand elles jouent au ballon, non?
Au début, oui, parce que le football féminin n'était pas tellement répandu. Ils ne savaient pas ce que c'était, les gens. Et quand ils ont vu que c'était vraiment... Quand c'était bien joué, ils ont compris que... C'était un sport comme tous les autres.
Et quand on vous fait des réflexions, qu'est-ce que ça vous fait à vous?
Oui, on n'y fait pas attention.
C'est une archive de 1974, elles ne sont pas encore championnes du monde. Et est-ce que vous savez que Alina, impossible de retrouver une archive d'elle quand elle gagne la Coupe du Monde, ouais, en 1978 à Taipei? Impossible, il n'y a rien.
Ouais. Non mais ça m'étonne pas parce qu'en fait à l'époque tout le monde s'en fout. D'ailleurs c'est comme ça qu'elle le raconte. Nous on gagnait la Coupe du Monde et tout le monde s'en foutait. On n'avait même pas un mot de la fédération. Il y a un mec qui raconte ça qui dit bah moi je les suivais pour ça, pour la fédération et puis j'envoyais des résultats extraordinaires et puis personne ne me répondait jamais.
Et là aussi, encore une fois, Pauline Bureau, vous avez été les rencontrer, oui, et vous les avez retrouvés.
Ouais, je les ai retrouvés. J'en ai retrouvé 5 et je les ai rencontrés, je les ai interviewés et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que c'est une histoire complètement folle, c'est une histoire d'équipe. Moi, c'est aussi ça qui me plaisait. Moi, je travaille beaucoup en compagnie, ça fait 15 ans que je travaille avec les mêmes acteurs. Le théâtre, c'est aussi un sport d'équipe et ça me plaisait de parler de ça. Et puis, elles sont pas du tout là où on les attend. Et chacune d'elles s'est complètement étonnée à faire cette chose qui lui semblait complètement dingue.
Merci Pauline Bureau d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci Zoé.
Votre spectacle Hors la loi est donc au Théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 7 juillet. Peut-être qu'il partira en tournée plus tard, mais en tout cas... Plein d'autres de vos spectacles sont en tournée,
oui,
en France. Et on peut retrouver toutes ces dates sur le site de votre compagnie,
oui,
La Part des Anges.
Oui.
Et sur le site de l'émission.
Bien sûr.
Une journée particulière. Vous allez jouer quoi là? Vous allez rejouer Modèle?
Non, alors Modèle, non, ça fait un moment qu'on le joue plus. Là, on va faire Féminine, donc c'est la création du spectacle sur le foot qu'on va faire à la rentrée au Théâtre de la Ville et puis en tournée. Et puis Les Bijoux de Pacotille, qui est un spectacle qu'on a créé l'an passé, qui va être en tournée aussi toute la saison prochaine.
Partout en France?
Absolument.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation, même si elle veut pas le dire, c'est Flora Bernard qui aimait Patrick Bruel. À la programmation musicale, c'est Djoubaka, sauf pour le premier disque, il déteste Queen. Et à la technique aujourd'hui, c'était Florent Beauvallet. Merci Pauline Bureau.
Merci beaucoup.
N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. À la semaine prochaine. Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son très grand atelier.